VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, édition du lundi 12 octobre 2015, en direct de Washington. Anastasie Tudiech et Anne Alberston, voici les titres.
Élection présidentielle en Guinée, majoritairement dans le calme, mais sous haute observation.
Nous avons dépêché une délégation à la CENI pour que justement notre mécanisme puisse fonctionner à l'aide de grosses réponses rapides.
Magali Traoré de la COFIG, la coalition des femmes et filles de Guinée.
Au nord du Cameroun, double attentat suicide attribué à Boko Haram. Au moins 9 victimes sont à déplorer.
Mali, 8 militaires et un civil se sont évadés de leur prison à la gendarmerie de Bamako.
En République centrafricaine, les tensions perdurent qui rendent les pourparlers prévus aujourd'hui plus qu'incertains.
Et puis tout à l'heure, nous retrouverons la page sport d'Élisée Ungpatine, mais tout de suite, le journal.
En Guinée, 6 millions d'électeurs étaient appelés à élire leur président de la République. Globalement, le scrutin s'est déroulé sans incident. Toutefois, des anomalies ont été signalées dans plusieurs bureaux de vote. L'une des porte-paroles du chef de l'opposition, Seloud Alain Diallo, a ainsi dénoncé, je cite, « de graves irrégularités et des fraudes massives directement constatées sur le terrain ». Samedi soir, M. Diallo déclarait à la Voix de l'Amérique
« Si les résultats proclamés par la CENI ou par la Cour suprême ne reflètent pas la vérité des urnes, on ne l'acceptera pas ».
Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry, a suivi pour nous ces élections.
Pas la peine. Daouda nous montre sa carte d'électeur, mais il dit n'avoir pas retrouvé son nom sur la liste.
Je dois voter ici, dans le bureau de vote numéro 002, mais je ne retrouve pas mon nom dans la liste qui est envoyée.
D'autres anomalies ont été constatées dans plusieurs bureaux de vote. Pour corriger les anomalies, la Commission électorale nationale indépendante a fait voter au-delà de 18h, heure de fermeture, mais dans les bureaux de vote ayant démarré les opérations en retard. Les Guinéens choisissent leur président de la République parmi 8 candidats, dont Alpha Condé, le président sortant. Les résultats provisoires seront connus dans quelques jours et la Cour constitutionnelle a 8 jours pour publier les résultats définitifs.
Et ajoutons qu'une mesure de la Haute Autorité de la Communication interdit toute publication de résultats en attendant les chiffres officiels de la CENI.
Les opérations de vote se sont donc prolongées au-delà de 18h, heure de fermeture des bureaux de vote. Autre dérogation, la Commission électorale nationale indépendante a autorisé le vote sans enveloppe pour cause de pénurie. Le processus s'est déroulé sous l'œil attentif des observateurs nationaux et internationaux. Ils ont parlé à Zakaria Camara.
2000 observatrices déployées à travers la Guinée. L'initiative est de la coalition des femmes et filles de Guinée, COFIG. Sa présidente, Madame Makali Traoré, dit avoir saisi la commission électorale nationale indépendante pour la correction des anomalies constatées sur le terrain.
Nous avons, à l'issue de l'observation de cette matinée, beaucoup d'irrégularités par rapport à l'ouverture des bureaux de vote, la présence du matériel sur le terrain, la lenteur dans le mécanisme de l'expression du vote des Guinéens et ça commence à créer des tensions. Nous avons dépêché une délégation à la CENI pour que justement notre mécanisme puisse fonctionner à l'aide de grosses réponses rapides.
La case de veille, voilà le dispositif que la COFIG a décliné pour observer les opérations de vote. Cette salle est appelée chambre technique. Mouloukou Suleiman en est le superviseur. Il s'occupe de la plateforme composée de 52 ordinateurs qui enregistre des données des 2000 observatrices.
Les informations nous viennent de partout, qui sont saisies par les opérateurs de santé que nous appelons analystes, pour en réalité avoir la photographie du déploiement de la CENI.
Des anomalies comme le manque d'enveloppes sécurisées, la mission d'observation de l'Union européenne en a aussi constaté Frank Engel, chef de mission.
Il y a eu des problèmes ponctuels, pourtant généralisés, des retards dans l'ouverture, du matériel qui manquait, des procédures de vote qui se sont engagées lentement, mais qu'à la fin du compte, cela n'a pas empêché les électeurs à se présenter relativement en masse devant les bureaux de vote pour exercer leur droit de vote, ce que nous apprécions de manière extrêmement positive parce que ça témoigne d'une forte mobilisation des électeurs de la Guinée pour désigner leur président.
La mission européenne a déployé 72 observateurs pour une élection dont les résultats définitifs seront connus dans une semaine. Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un double attentat suicide a de nouveau visé dimanche l'extrême nord du Cameroun, faisant au moins 9 morts. La veille, au Tchad, une attaque meurtrière était attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram, toujours actifs malgré l'offensive militaire conjointe des pays de la région. Éric Manirakiza.
Quelques heures à peine après les attentats sur les bords du lac Tchad, les islamistes ont frappé de nouveau, non loin de là, mais cette fois au Cameroun. Deux femmes kamikazes se sont fait exploser vers 6h, 5h temps universel, dans le village de Kangaleri, à une trentaine de kilomètres de Mora, dans la province de l'extrême nord, selon une source sécuritaire et un responsable local. La première femme a tué 9 personnes dans un petit restaurant populaire vendant du lait et des beignets, tandis que la seconde s'est fait exploser seule, sans faire de mort, a expliqué ce dernier. Parmi les 29 blessés, plusieurs sont actuellement dans un état très grave et ont été acheminés d'urgence vers les hôpitaux de la région, a-t-il précisé. Il s'agit des 14e et 15e attentats suicides dans l'extrême nord du Cameroun depuis juillet. Plus de 100 personnes ont péri dans ces attentats attribués aux islamistes nigérians.
Au Mali, 8 militaires et un civil se sont évadés de la prison de la gendarmerie de Bamako. Les fugitifs, parmi lesquels des putschistes de 2012, ainsi que des sous-officiers arrêtés pour tentative de coup d'État, se sont fait la belle à bord de 2 véhicules et d'une moto armée d'un pistolet mitrailleur. Correspondance de Kassim Traoré.
Cette évasion est l'œuvre de 7 militaires, un inspecteur de police et un civil qui se sont tous évadés après avoir forcé les cadenas de leur cellule. Les enquêtes préliminaires ont permis de retenir que les personnes évadées sont au nombre de 9, parmi lesquelles 3 sous mandat de dépôt du juge d'instruction dans l'affaire de tentative de coup d'État du mois de juillet 2014. À ceci s'ajoutent 4 ex-éléments de la junte de Kati. Le 9e se nomme Boubacar Touré. Civil, il est poursuivi pour une évasion du 13e arrondissement de police de Bamako. L'écoute de l'inspecteur de police Ousmane Fane, qui n'a pas voulu s'évader, a révélé que les intéressés ont bénéficié d'une aide extérieure qui leur a permis d'obtenir une barre de fer pour forcer les cadenas de la cellule et obtenir une arme. À leur sortie de cellule, les évadés ont neutralisé un homme de garde couché à l'intérieur du poste avant de braquer un motocycliste et 2 automobilistes Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République centrafricaine, difficile, voire impossible, de faire un bilan 48 heures après l'assaut des forces internationales contre une colonne d'ex-combattants Séléka aux alentours de Sibut, à 160 km au nord de Bangui. Par ailleurs, l'ouverture des pourparlers de la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, avec les forces vives de la nation, annoncée pour ce lundi, risque d'être un échec. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Selon les autorités préfectorales de la Kémo, il est encore difficile de fournir un bilan des combats qui ont eu lieu aux alentours de Sibut, car jusqu'en début de soirée de ce dimanche, les opérations se poursuivaient. Certaines sources parlent d'importants dégâts humains et matériels dans le rang des miliciens de la Séléka qui tenaient à marcher samedi sur Bangui. Se voulant prudent, Lazare Morales Ngaya, préfet de la Kémo, indique lui qu'au cours des affrontements, 2 assaillants ont été capturés. À Bangui, le gouvernement se félicite de cette opération. Son porte-parole, Dominique Saïd Pagindi, annonce que c'est un message fort envoyé aux groupes armés qui sèment la terreur dans le pays.
Ceci est un message clair qui est envoyé en direction des groupes armés pour leur dire qu'aujourd'hui, l'équilibre de la force n'est pas en leur faveur et qu'ils ont plutôt intérêt à revenir autour de la table de négociations pour privilégier des solutions politiques, des solutions apaisées.
Entre-temps, la vaste concertation de la présidente de la transition avec toutes les forces vives de la nation, dont l'ouverture prévue ce lundi, risque de ne rien donner. Le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, branche de l'ex-Séléka, ainsi que certains partis et associations politiques ont ouvertement annoncé qu'ils ne prendront pas part à ces pourparlers. Raison évoquée, le caractère exclusif de cette rencontre ou encore mascarade visant à rallonger la transition en cours. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La chef de la mission électorale pour l'Union européenne au Burkina Faso est rentrée ce week-end chez elle en Italie. La députée européenne Cécile Kyenge affirme que le nouveau chronogramme électoral du pays sera bientôt dévoilé par les autorités de transition. L'envoyé spécial de VOA Afrique en Italie, Nicolas Pinault, a rencontré Madame Kyenge.
J'ai pu rencontrer tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral, de la société civile, la CENI, le Conseil constitutionnel, le Premier ministre, le Conseil national de transition et jusqu'au président de la République, justement pour leur faire comprendre qu'on n'a pas changé nos objectifs, nous sommes là, on doit accompagner le processus électoral. Et d'après ces premiers contacts, tout le monde veut arriver à une date le plus tôt possible. C'est-à-dire ils veulent arriver à la fin de la transition le plus tôt possible. Et il faut dire que les gens qui pensent aller au-delà de 2015 sont vraiment une minorité. Il y a vraiment une minorité avec laquelle on a parlé. Mais jusqu'à présent, la majorité du pays pense que c'est le cas de donner une date avant la fin de l'année. Et le président nous a promis que d'ici peu, d'ici quelques jours, il va annoncer la date des élections.
Au Rwanda, Frank Habineza, leader du Parti démocratique vert, a annoncé son intention de demander publiquement au président Paul Kagame de ne pas violer la Constitution en briguant un troisième mandat. La haute cour rwandaise a récemment débouté le Parti vert dans sa tentative de maintenir la limite des mandats présidentiels à deux seulement, ce qui pourrait ouvrir la voie à un autre mandat pour le président Kagame, son second mandat expirant en 2017. D'où la décision de Frank Habineza de faire appel directement au chef de l'État rwandais pour obtenir son refus officiel d'un nouveau mandat. Le leader du Parti démocratique vert cite à titre d'argument l'opposition de Washington au changement constitutionnel visant à permettre au chef d'État de se maintenir au pouvoir. Ailleurs dans le monde, Aboubakr el-Baghdadi est-il affaibli? C'est ce qu'en tout cas ont affirmé dimanche les forces irakiennes. Le convoi du chef du groupe djihadiste État islamique, EI, aurait été touché par un raid aérien alors qu'il se rendait dans la région de Karabla pour participer à une rencontre des chefs de Daesh. Les autorités irakiennes ont toutefois précisé que l'état de santé de Baghdadi, l'un des hommes les plus recherchés de la planète, est, je cite, « inconnu ». Fort de dizaines de milliers d'hommes, l'État islamique contrôle aujourd'hui 50% de la Syrie voisine et de vastes régions en Irak. Le groupe terroriste est depuis plus d'un an la cible de raids aériens d'une coalition internationale dirigée par les États-Unis et frappée également depuis le 30 septembre par l'aviation russe en Syrie, un déploiement pour le moment vain. L'Irak a déjà par le passé affirmé avoir blessé ou même tué le chef de l'EI, affirmations qui par la suite se sont avérées fausses.
Défilé anti-Erdogan à Ankara, dimanche à 3 semaines des élections législatives en Turquie, des milliers d'hommes et de femmes en colère ont défilé dans les rues d'Ankara. La veille, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays, non revendiqué à ce jour, a fait au moins 97 morts. L'opposition pro-kurde accuse le président Erdogan d'être responsable de l'attentat. Samedi, le Premier ministre Ahmet Davutoğlu a quant à lui pointé du doigt 3 mouvements susceptibles selon lui d'être à l'origine de l'attentat, les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, le groupe État islamique et le parti Front révolutionnaire de libération du peuple d'extrême gauche. Depuis, le gouvernement est resté très discret et n'a pas communiqué sur l'enquête en cours. Trois jours de deuil national ont été décrétés.
Le petit père du Biélorusse réélu pour la 5e fois. Le président sortant du Biélorusse, Alexandre Loukachenko, 61 ans, au pouvoir depuis 21 ans, a remporté son 5e mandat. Présidentielle avec 83,89% des voix. Les principaux dirigeants de l'opposition, empêchés de participer à l'élection, avaient appelé les électeurs à boycotter le scrutin. Monsieur Loukachenko a régulièrement été accusé de graves atteintes aux droits de l'homme et le nouveau prix Nobel de littérature, l'écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch, a appelé l'Union européenne à éviter tout rapprochement avec celui qui se fait appeler Batka, le petit père du Biélorusse. L'Union européenne envisage de lever les sanctions qui frappent monsieur Loukachenko depuis 2011.
Et nous terminons avec la politique américaine et Donald Trump qui est toujours en tête des sondages. Le dernier sondage de CBS attribue à M. Trump le soutien de 27% des électeurs républicains devant Ben Carson qui totalise 21% des suffrages. Aucun autre candidat républicain n'obtient de score à 2 chiffres. Dans le camp démocrate, Hillary Clinton est en tête avec 46% de soutien, loin devant le sénateur indépendant Bernie Sanders et ses 27% de soutien.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech avec vous et tout de suite nos dossiers du jour. Les élections présidentielles ont eu lieu le 11 octobre en Guinée et à Washington aussi, les Guinéens ont voté. La diaspora guinéenne aux États-Unis compte 5000 membres, dont 1830 électeurs inscrits qui ont voté. Georges Léonard Sagno a suivi le vote dans la capitale fédérale. Reportage.
10h du matin, dimanche 11 octobre, jour du scrutin présidentiel guinéen, nous sommes dans les locaux de l'ambassade de Guinée à Washington. Désordre, magouille, anomalie étaient les maîtres mots sur les lèvres de quelques électeurs guinéens de la diaspora venus s'acquitter de leur devoir civique. Patience, ce mot n'est pas le bienvenu chez Mariam Bangoura.
Je n'ai pas voté et je ne suis pas contente. Nous sommes venus à l'ambassade, on nous a donné des récépissés et à notre étonnement, j'apprends hier que nous ne pouvons pas voter et le pourquoi, point d'interrogation, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est qu'il y a eu la magouille qui a commencé de l'ambassade ici.
Pour Oumar Wane, observateur de l'IFDG de Selou Dalein Diallo au bureau de vote de Washington, le travail qui a été fait manque de professionnalisme.
Ce qu'il y a à déplorer, c'est le processus. Quand vous regardez un peu les fiches qui ont été envoyées au niveau du travail qui a été fait, on ne dirait pas que ce sont des professionnels qui ont travaillé. Et est-ce que c'est sciemment fait ou bien c'est par manque de professionnalisme? Il est difficile aujourd'hui de le dire, mais ça laisse à désirer. Il y a un manque systématique de professionnalisme dans le travail qui a été fait par la CENI, par les opérateurs qui ont travaillé.
Blaise Tengiano, un Guinéen vivant dans le Maryland, a passé 2 heures avant de voter.
Bien sûr qu'il y a un peu de retard, mais tout est en ordre et j'ai voté. Et ça s'est bien passé.
Ça vous a pris du temps pour que vous votiez?
Oh, ça m'a pris 1h45 minutes pour que je puisse voter. Et avant qu'on retrouve encore mon nom, ça fait quelque chose de 15 minutes.
Mamadi Kondé, ambassadeur de Guinée aux États-Unis, est visiblement en colère contre ces anomalies découlant de la mauvaise organisation de la Commission électorale nationale indépendante.
C'est vraiment avec le cœur meurtri que moi j'ai vu ça. Parce que franchement parlant, ce n'est pas de leur faute. Il y en a, enfin, qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur, par exemple. Parce que, certainement, pour des raisons X ou Y. Le plus difficile, c'est surtout ceux de 2015. Ils sont plus nombreux et aucun d'eux n'a reçu vraiment sa carte.
Comment allez-vous les consoler, essayer de les calmer?
Mais le mal est fait.
Même son de cloche chez Annie Touré, représentant du RPG aux États-Unis. Mais il prend plutôt son mal en patience.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. Notre message à tous, c'est la patience. Il faudrait patienter.
Quant à Sam Souman, président de la communauté guinéenne dans la région de Washington, il parle de fortes mobilisations.
Virginie, Maryland et d'ici Washington, DC, vraiment se sont mobilisés depuis 6 heures du matin pour venir s'acquitter de leur devoir civique. Et j'ai bien voté.
Tout en regrettant les problèmes techniques, Ali Camara, président du bureau de vote de Washington, se dit confiant.
Concernant la circonscription de Washington, nous avons un effectif de 1830 pour lequel la CENI nous a envoyé les cartes électorales. Ce sont essentiellement les inscrits de 2010. Les inscrits de 2015 n'ont pas eu la chance d'avoir des cartes d'électeurs. Donc ceux-là n'ont pas l'opportunité de voter cette fois-ci.
Même s'ils ont des récépissés?
Les récépissés ont été absolument interdits par la CENI cette année pour le vote.
Avez-vous une idée du nombre total d'électeurs aux États-Unis cette année?
Je pourrais dire que le nombre de votants, c'est dans l'ordre de 5000.
Chenaïtou Camara, c'est la joie après le vote.
J'ai très bien voté, il n'y a pas de guerre ici, il n'y a pas de pagaille, il n'y a rien. Je suis content.
Bouclons ce reportage par un des sages de la communauté guinéenne dans la région.
Bob So, et celui-là m'a quitté de mon devoir civique, j'ai voté. Tout se passe très bien ici, très content par l'organisation et on remercie tous les Guinéens qui sont venus.
C'était depuis les locaux de l'ambassade de Guinée à Washington, Georges Léonard Sagno pour VOA Afrique.
Guinée. dîner toujours, où les bureaux de vote étaient fermés à partir de 20h sur autorisation de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les irrégularités observées n'entachent pas la crédibilité de la présidentielle de dimanche et un deuxième tour s'avère inévitable, analyse le juriste et politologue Nema François Chérif, qu'Éric Maniarakis a adjoint à Conakry.
Je peux oser vous dire que ces élections seront plus ou moins crédibles et transparentes. Pour des raisons ici à Conakry, et même qu'à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, dans les ambassades, il y a eu quelques anomalies. C'est vraiment lié à toutes les élections dans les pays pauvres comme la Guinée. C'est tous les pays qui sont en train de renforcer leur culture démocratique, surtout en matière électorale. Donc ces élections, je crois bien que les résultats seront acceptés par tous. À la minute, aucun des leaders n'a dénoncé des fraudes massives, genre entraînant la crédibilité et la transparence du scrutin.
Apparemment, il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté.
Exactement. Ce que je reprochais aux opposants dans leur entièreté, que les opposants sont restés à donner des discours de doute si oui ou non ils devraient participer au scrutin, ce qui a empêché la plupart des militants de leur parti d'aller retirer leur carte d'électeur. Donc aujourd'hui, j'ai parlé avec beaucoup de potentiels électeurs qui n'ont pas pu voter puisque ils n'étaient pas sûrs ou non, il devrait y avoir le vote. Très tard, le principal opposant, c'est Dalain Diallo, avait demandé à ses militants d'aller retirer rapidement leur carte d'électeur.
Avec les anomalies qui ont été observées, est-ce que l'on peut dire que la présidentielle a été organisée dans la précipitation, que la CENI était prête?
Je dirais que la CENI, techniquement, n'était pas prête, mais il fallait aller aux élections.
Est-ce que vous pensez qu'un candidat peut gagner dès le premier tour, si vous analysez ce qui se passe en Guinée?
Depuis l'élection du président Alpha Condé à la tête de l'État, a connu beaucoup de violences. À Djibouti, à Sahoro, la liste est longue. Donc cette population est très, très réticente quand il s'agit d'appel du président Alpha Condé pour un deuxième tour. Aujourd'hui, on peut tirer une conclusion avec ce que j'ai vu, les électeurs que j'ai demandé, des amis qui ont voté, pour dire qu'il nous faut obligatoirement un deuxième tour.
Le politologue Nema François Chérif, joint à Conakry par Éric Maniarakis. L'Europe à présent. Notre série, cette semaine, nous emmène en Italie et notamment en Sicile. L'île italienne est la principale porte d'entrée vers l'Europe pour tous les désespérés qui rêvent d'une vie meilleure. Reportage de l'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pino, sur place.
Chaque jour ou presque, le rituel est le même dans un port sicilien. De Pozzallo à Messine, en passant par Augusta ou Catane, un navire accoste avec à son bord des passagers un peu particuliers. Le regard perdu, emmitouflé dans des couvertures de survie, ils s'apprêtent à poser le pied sur cette terre européenne dont ils ont tant rêvé. Érythréens, Soudanais, Maliens ou Libyens, ils débarquent par centaines en Italie. Le bateau norvégien Siem Pilot a secouru 239 migrants la semaine dernière. Le navire britannique Enterprise a lui sauvé plus de 650 personnes des eaux de la Méditerranée. On écoute le commandant du bateau norvégien Siem Pilot, Tore Barstad.
Nous recevons des appels de détresse, parfois passés depuis la terre ferme par les passeurs. Malgré les patrouilles et les nombreux bateaux européens présents dans la zone, la traversée reste dangereuse. On ne peut pas être partout à la fois et sauver tout le monde. C'est une loterie malgré nos systèmes de surveillance sophistiqués et nos radars.
Les opérations Triton ou Mare Nostrum ont permis de faire diminuer le nombre de morts dans la zone. On a quand même enregistré depuis le début de l'année plus de 3000 décès. Effet pervers de ces missions de sauvetage, les passeurs expliquent désormais aux migrants que le voyage est plus sûr en raison de la présence de ces navires européens. Un bien mauvais argument de vente. Les trafiquants profitent aussi de l'occasion pour limiter encore plus le peu d'essence qu'ils mettent dans les embarcations de fortune. Les autorités européennes cherchent à tout prix à identifier, arrêter et traduire en justice les passeurs qui opèrent des deux côtés de la Méditerranée. Et Nicolas Pino en Sicile pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique, le sport maintenant avec vous, Élisée Oumpatine. préliminaires de la Coupe du monde de football 2015 en Afrique, on connaît déjà les trois premières équipes qualifiées.
L'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie sont les premiers à franchir le premier tour de ces éliminatoires. L'Éthiopie, qui avait perdu le match aller contre Sao Tomé, a inversé la vapeur, score 3-0. Le Kenya, qui avait fait l'essentiel en gagnant la première manche à Maurice 5-2, n'a pu se contenter d'un 0-0 à domicile. Enfin, la Tanzanie s'est inclinée 1-0 au Malawi, mais elle passe à la faveur de sa victoire 2-0 du match aller. À l'occasion du deuxième tour, le mois prochain, la Tanzanie jouera contre l'Algérie, l'Éthiopie contre le Congo-Brazzaville et le Kenya en découdra avec le Cap-Vert.
Alors Élisée, outre ces trois équipes qualifiées pour le second tour, il en reste encore 10.
Ah oui, et rendez-vous mardi pour les 10 matchs retour avec par exemple le Tchad en ballotage légèrement favorable face au Sierra Leone puisque vainqueur 1-0 à l'aller. Également Madagascar, fort de son succès 3-0 à l'aller, sera en Centrafrique tout comme le Niger, vainqueur de la Somalie 2-0 et qui jouera le match retour à Niamey. À suivre encore ce mardi, Botswana, Érythrée, les Botswanais vainqueurs 2-0 à Asmara. Et puis après le match nul 1-1 au match aller, Namibie et Ouganda vont se départager à Windhoek.
Et pendant ce temps, les équipes mieux placées au classement FIFA jouaient des matchs amicaux.
Le Cameroun a pris une claque face au Nigeria, battu 3-0, score qu'a infligé l'Égypte à la Zambie, tout comme le Mali qui a corrigé le Burkina Faso 4-1. La Côte d'Ivoire est allée battre le Maroc 1-0. Notons la première victoire de Luis Fernandez à la tête du Sélection nationale de la Guinée qui a battu l'Algérie 2-1. Et puis la Tunisie accrochée par le Gabon à domicile 3-0. Et suite de ces rencontres amicales ce soir du côté de la Belgique, la République démocratique du Congo, vainqueur du Nigeria 2-0 mercredi dernier, va affronter le Gabon. Coup d'envoi du match à 18h30, temps universel.
Parlons à présent de la Coupe du monde militaire et de l'Algérie, sacrée championne.
Effectivement, et c'est le second titre mondial pour les Algériens qui ont battu en finale le Sultanat d'Oman 2-0 après prolongation. Et c'était en Corée du Sud. Direction Angola, le Recreativo Libolo conserve son titre de champion. Un titre acquis à l'issue de la dernière journée. Libolo finit à égalité de points avec le primero Do Agosto, mais s'impose à la différence de particulière. C'est la quatrième fois que ce club est champion d'Angola. Et puis en RDC, le match au sommet de la quatrième journée de la Nina Foot a eu lieu à Kinshasa entre l'ASV Club et le Darin Club Motéba Pembe, le derby quinois. Et à l'arrivée, ce sont les Immaculés qui ont pris le meilleur sur les Moscovites de Florent Ibengué, 1-0.
Cyclisme. Et le Tour du Faso 2015 aura bien lieu.
Oui, on peut être affirmatif aujourd'hui, mais le doute a été grand ces dernières semaines. Après le putsch du mois dernier à Ouagadougou, en fait, on se disait que pour la deuxième année consécutive, le Tour pourrait être annulé. On se rappelle de l'année dernière pour cause d'Ebola. Mais cette année, le Tour aura bel et bien lieu et va démarrer à la date prévue, c'est-à-dire à partir du 30 octobre prochain. Et puis, rugby pour terminer, l'Afrique du Sud, après avoir démarré difficilement la Coupe du Monde de l'épreuve qui se déroule en Angleterre, s'est qualifié pour le second tour et surtout en tête de son groupe. En quart de finale, les Springboks vont affronter les Pays de Galles. Et pour les autres affiches de ces quarts de finale, on aura donc France, Nouvelle-Zélande, Argentine, Irlande et puis Australie, Écosse.
Merci Élisée Oumpatine.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? A cheerleader, she is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause
I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating?
C'était Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington DC. Je suis Anastasie Tudiech. Merci pour votre attention. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci également à toute la rédaction. Bonne journée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.